J'invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes, le psaume 2. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel? Et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Amen. J'aimerais exposer ce texte de la parole de Dieu en quatre strophes où on voit que parlent tour à tour d'abord les rebelles qui prennent la parole, les versets 1 à 3. Ensuite, l'Éternel qui leur répond, les versets 4 à 6. Ensuite, le Messie fait une proclamation, versets 7 à 9. Et finalement, le psalmiste fait une invitation, versets 10 à 12. Donc, nous avons la rébellion des hommes, la dérision de Dieu, la proclamation du Messie et l'invitation aux humains. Nous vivons dans un monde déchu où les êtres humains ont été entraînés dans la rébellion du diable qui s'est rebellé contre Dieu au commencement et qui a entraîné le premier homme avec lui dans sa rébellion contre l'Éternel et contre son oint. Et donc, depuis le commencement, depuis la chute, Dieu déclare la guerre au serpent et il déclare qu'il y aura une inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est le Christ et ceux qui sont en Christ. Ce sont les élus qui font partie du peuple de Dieu et qui vivent au milieu d'un monde rebelle où il y a des fils du diable, des fils de la géhenne, des gens qui sont d'une engeance, une descendance de la vipère et qui manifestent leur rébellion contre Dieu et qui refuse le règne de Dieu et de son oint. Et donc, le contraste entre les deux postérités devient évident lorsqu'on regarde quels sont l'objet de leurs méditations respectives. Le psaume 1 nous dit ce que médite l'homme de Dieu. Il médite la loi de l'Éternel, jour et nuit. C'est le verbe « hagar » en hébreu. Et le même verbe est utilisé au deuxième psaume, verset 1, lorsque ça nous parle des vaines pensées, « hagar ». Ce que méditent les méchants, c'est qu'ils complotent. Parmi les peuples, donc, ils se rebellent. Cette rébellion est observable parmi tous les chrétiens, parmi tous les pécheurs inconvertis. Et on peut la voir de façon générale comme étant l'état de péché dans lequel se trouvent les hommes qui refusent l'autorité de Dieu. Ici, il est parlé en particulier aux puissants, à ceux qui sont un peu les représentants parmi les hommes, les rois de la terre, les princes. Un peu plus bas, ça nous parle des juges. Donc, les autorités qui représentent les peuples. Et donc, qui sont en rébellion contre Dieu, puisqu'ils sont souvent les agitateurs, ceux qui gouvernent le monde ou qui influencent, qui mènent la culture, qui dirigent les hommes lorsqu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Et ils vont stimuler la rébellion contre Dieu. Spurgeon écrit à cet effet que pour la nuque dénuée de la grâce, le joug du Christ est intolérable. Mais pour le pécheur sauvé, il est doux et léger. Nous devons nous juger nous-mêmes. Aimons-nous son joug ou voulons-nous nous en débarrasser? Les hommes ont voulu être leur propre Dieu. Et c'est toujours ce qui caractérise les hommes déchus. Une rébellion contre leur Créateur. Mais les enfants de Dieu se manifestent par leur désir de soumission et d'obéissance, où ils acceptent le joug de Dieu et concrètement de son oint. Et Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mes instructions, recevez mon joug. » Donc, c'est ce que font les enfants de Dieu. Alors, la rébellion des hommes se manifeste par la dépravation et le péché, et la rébellion vers Dieu, mais de façon spécifique contre le loin de l'Éternel. Le mot « loin », « machia » en hébreu, est traduit par « Christ »,« Christos » en grec, où on a aussi le mot « Messie » qui a été translittéré en grec, qui vient du mot « machia » en hébreu, qui veut dire « celui qui a reçu l'onction »,« loin de l'Éternel ». Alors, dans le contexte immédiat, David est loin de l'Éternel. David est celui qui a reçu, qui a été choisi au milieu de ses frères, bien qu'il était le plus jeune, qui a reçu cette huile de joie, cette onction royale, qui a été désignée, choisie par Dieu, en remplacement de Saül. Et donc Dieu, dans ce choix de David, plus tard lui révèle aussi qu'il va affermir sa maison et qu'il va affermir le règne de David pour en faire un règne sans fin. Et non seulement ce sera un règne qui n'a point de fin dans la durée, mais aussi un règne qui n'aura pas de limite dans son étendue, où il va s'établir sur toutes les nations. Ce n'est pas David lui-même qui devait, en son temps, régner sur tous les peuples, bien que d'autres peuples que le peuple d'Israël lui ont été soumis temporairement. Mais nous voyons dans le livre des psaumes, dans les prophéties, des livres prophétiques qui reprennent l'alliance davidique, que le roi davidique qui doit venir règnera non seulement sur la maison d'Israël et de Juda, mais sur tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et même dans ce psaume, c'est ce que nous voyons au verset 8, que le Messie a reçu les extrémités de la terre pour possession. Alors, c'est contenu dans l'alliance davidique, même si ça ne s'est pas actualisé au temps de David, puisque David est la figure de celui qui devait régner après lui, son fils, le fils de David, Jésus. Alors, si vous retrouvez l'alliance davidique dans 2 Samuel 7, les versets 12 à 16 en particulier, où Dieu dit que ce sera le fils de David qui va venir après lui, qui va bâtir la maison de l'Éternel et non David lui-même, et que Dieu va affermir son règne, qu'il va être appelé fils de Dieu et qu'il va régner donc pour toujours. Les fils de David sont donc des figures messianiques, appelés fils de Dieu, comme David est appelé ici le fils, mais en vue de celui qui est le fils. Et donc, on voit que dans ce psaume, et comme dans beaucoup de psaumes, il faut voir à deux niveaux. Il y a d'abord la réalité historique de David, et souvent sa réalité, ici, il affirme son règne, il affirme son autorité royale en vue de celle du Messie, qu'il appelle son Seigneur, bien qu'il soit son fils. Parfois, les souffrances de David anticipent la croix de Christ. où il parle de la résurrection du Christ. Alors, il faut toujours voir la portée ultime, être capable de faire une lecture au premier niveau, ce qui s'applique dans le contexte davidique, mais ce qui est une prophétie qui allait plus loin. Armand de Mestral, un commentateur réformé du 19e siècle, a écrit la chose suivante. Le psalmiste nous présente des peuples nombreux soulevés contre l'Éternel et contre la personne sacrée du roi qu'il a établi sur eux. Dès la première lecture de ce remarquable psaume, on pressent qu'il y est question de quelques personnages bien supérieurs en dignité et en puissance à David lui-même et à tous les rois d'Israël, ses successeurs, et d'une révolte bien plus considérable que toutes celles contre lesquelles ils eurent à défendre leur trône. Parmi ces princes soulevés, ligués contre David, on va retrouver son propre fils, Absalom, dès le psaume qui suit. Le titre du psaume nous parle que le psaume 3 a été écrit lors de la révolte d'Absalom, ainsi que le psaume 4 et le psaume 5 que je prêchais ce matin à notre église de Saint-Jérôme. Et ce psaume 5 est cité dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 13, où il prend une partie du psaume 5 qui est dans le contexte de la rébellion d'Absalom et dans ses paroles d'arrogance où il veut renverser loin de l'Éternel. Mais David fait une application universelle. Ceci représente les pécheurs rebelles envers Dieu, qui ne veulent pas du règne de Dieu et qui ne veulent pas du règne messianique. Dieu a établi un oint. Donc, il y a une portée immédiate. Et pour David, il y avait ce combat pour défendre son trône, même contre son propre fils révolté. Mais ce que nous voyons, c'est un complot plus grand contre le Fils de Dieu. Et le Nouveau Testament nous donne l'accomplissement de ce psaume et de la rébellion des hommes qui complotent ici dans les versets 1 à 3 lors du complot contre Jésus. Vous pouvez tourner dans Actes 4. Actes 4, nous allons lire les versets 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, voici la rébellion des hommes, le contexte davidique, une rébellion immédiate qui va suivre tout de suite après le psaume 2, celle d'Absalom qui est transposée à l'échelle universelle dans le Nouveau Testament pour nous parler de la rébellion des hommes, mais en particulier au temps de notre Seigneur qui a été oint, comme David l'avait été, mais lui par le Saint-Esprit, pour être le roi d'Israël qui vient, mais pas seulement pour régner sur Israël. Et Hérode, Ponce Pilate, les païens et les juifs complotent ensemble pour rejeter le règne que Dieu veut établir sur les hommes, le royaume de Dieu établi dans la personne du Christ. Quelle est la réponse de Dieu vis-à-vis de la rébellion des hommes? Nous la lisons dans les versets 4 à 6. « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. » À vue humaine, parfois, les royaumes des hommes semblent triompher, semblent dominer. Les endroits dans le monde où le christianisme est interdit de citer, les chrétiens semblent pas dominer la culture. Ils sont cachés dans les antres de la terre. Ils sortent la nuit pour pouvoir se réunir sans se faire voir. Ils sont persécutés. Et il semble que ce sont les méchants qui dominent, qui triomphent, qui établissent le règne qu'ils veulent avoir. Mais Dieu se rit de leur rébellion. Et bien qu'ils complotent, tout en complotant et en cherchant à briser les liens que Dieu veut placer pour dominer sur les hommes, ils accomplissent même le plan divin. Regardez encore ce que Paul, ce que Pierre déclare dans le texte que nous venons de lire, dans Actes 4, 27 et 28. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Voilà comment le Seigneur rit. Voilà comment il se moque de leur plan. Votre plan, vos complots pour empêcher le plan de Dieu s'inscrit dans le décret, dans le conseil souverain de Dieu pour faire arriver exactement ce que Dieu déterminait d'avance. En livrant à la mort le Messie de Dieu, ils l'ont fait conquérant de la mort. Ils ont accompli le dessein divin en manifestant publiquement qu'il est loin de l'Éternel, qu'il ne va non pas le laisser dans le Sheol connaître la corruption, mais il va le déclarer fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts et mettre sous ses pieds tous les royaumes de la terre. Ils font des complots contre Dieu, mais il est impossible de gagner contre lui. C'est le Dieu souverain et le royaume de son Christ est invincible. Parce qu'il est différent par sa nature des autres royaumes qui avancent par la domination des hommes, en les tyrannisant, qui avancent par la force de l'épée. Mais ce n'est pas par l'épée, mais par l'esprit et par sa parole que Dieu bâtit son royaume. Les hommes, dans leur folie, continuent de s'opposer à Dieu et à son plan. Alors voici ce que Dieu dit aux hommes au verset 6. « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » La religion chrétienne n'est pas une création humaine. C'est Dieu lui-même qui a établi Jésus-Christ roi et Seigneur et qui appelle tous les hommes à fléchir le genou devant son oint et à embrasser son Fils. Dieu a inauguré ce règne depuis Sion, la montagne sainte, à Jérusalem, là où se trouve le temple de l'Éternel. Et c'est là où a commencé la proclamation royale du règne de Christ par sa résurrection. Et ce n'est pas que le Messie devait régner seulement à Jérusalem ou depuis Jérusalem, mais que là allait se produire l'entrée dans son règne. Donc, sachons que peu importe les apparences, peu importe si nous semblons perdre la guerre de la culture, peu importe ce qui peut sembler à l'œil, ayons ce regard de la foi. Nous voyons Christ couronné de gloire et d'honneur, assis à la droite de Dieu le Père. Bien que nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses sont soumises à son règne ici-bas, il règne sur tous les hommes. Dieu l'a établi roi. C'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Et prenons courage, ayons ce regard de foi. Jean Calvin écrit: David donne à entendre que si Dieu permet que le royaume de son Fils soit attaqué, ce n'est pas qu'il ne puisse porter secours ou qu'il néglige l'honneur de son Fils, mais c'est à dessein qu'il diffère la vengeance jusqu'au temps le plus convenable pour que leur fureur soit exposée à la risée. Soyons donc convaincus que lorsque Dieu n'étend pas immédiatement sa main contre les impies, c'est pour lui le temps de rire. Et si alors c'est peut-être pour nous le temps de pleurer, cette pensée doit tempérer l'amertume de notre douleur. Dieu est patient. Et Dieu invite les hommes à la repentance. Et heureusement qu'il est patient envers les rebelles. Nous étions de ce nombre. Nous étions de ce nombre. Et le Seigneur, par sa puissance royale, a fait fléchir notre rébellion pour nous assujettir devant notre roi, son Messie. Donc, peu importe les apparences, peu importe si ce royaume semble être la risée, méprisée, écrasée de toutes parts, qu'on ait des brebis qu'on mène à la boucherie à longueur de jour, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes du côté du Tout-Puissant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même la mort ne peut rien faire pour détruire ce royaume. Et puisque Satan le sait, il n'utilise pas que la persécution. Il essaie d'utiliser la séduction pour ralentir ce royaume parce que la persécution semble souvent lui donner encore plus d'ardeur à ce royaume parce que les portes du séjour des morts ne peuvent point prévaloir contre son Église, contre un peuple qui a la vie éternelle. Donc Dieu se moque de la rébellion des hommes et de tout ce qu'ils peuvent faire pour manigancer, pour nuire à son royaume. Dieu établit son règne et les complots des hommes ne peuvent pas défaire. Ils accomplissent même le plan divin. Soyons-en certains. Ensuite, c'est le Messie qui parle. On retrouve dans les Écritures et dans l'Ancien Testament parfois Dieu qui parle à son Messie, le Messie qui parle à Dieu, David qui parle au Messie, qui l'appelle son Seigneur, Jésus qui pose la question, mais de qui est-il le Fils? Pourquoi est-ce que David l'appelle Seigneur si c'est son Fils? Alors voici ce que le Messie déclare au verset 7. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur la filiation divine et l'engendrement divin. D'abord, il y a un sens humain où David et ses fils sont appelés fils de Dieu, dans un sens un peu de royal. Les rois qui sont souvent dans le Proche-Orient vus comme des fils de Dieu. Alors, Israël aussi un peu cette notion-là, mais de façon orthodoxe, pas comme chez les empereurs égyptiens ou autres qui divinisaient. C'est pas lorsque David ou ses fils sont appelés fils de Dieu, on les divinise pas. Et on pense pas que tout ce qu'ils font est acceptable. Ils sont souvent désapprouvés par Dieu qui discipline ses fils avec une verge, mais comme ayant reçu le règne, c'est eux qui administrent le règne de Dieu parmi les hommes, qui était à l'époque contenu sur la nation d'Israël seulement. Dieu n'avait pas encore établi le trône de son oint sur toutes les nations à ce moment. Mais Jésus est appelé fils de Dieu dans un sens supérieur. Il est appelé fils de Dieu dans un sens humain également, comme Adam, par exemple, est appelé fils de Dieu dans la généalogie lucanienne de Christ, où on remonte du Christ jusqu'à Adam, fils de Dieu. Et ensuite, on est dans la situation où Adam se trouvait pour faire face au tentateur. Tout de suite après la généalogie que Luc nous donne, Luc ne la donne pas au début de l'Évangile comme Matthieu le fait, il la donne entre le baptême et la tentation au désert pour qu'on puisse voir que là où Adam a échoué, Adam, fils de Dieu, a échoué, Jésus, fils de Dieu, va réussir. Il est le fils fidèle qui vient comme fils royal, être fidèle là où Adam a échoué, là où Israël, qui est aussi appelé fils de Dieu, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, mais Israël ne sera pas un fils fidèle en qui Dieu prend parfaitement plaisir parce qu'il est parfaitement obéissant, il va être un fils rebelle, mais Jésus va être ce fils fidèle, le vrai Israël, le dernier Adam. Mais Jésus est appelé fils de Dieu bien plus que dans un sens humain dans l'Écriture, il est appelé fils de Dieu dans un sens divin. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer l'idée de l'engendrement au Fils? Et parmi les premiers théologiens, il y avait les Ariens, qui étaient les disciples de Arius, qui prenaient le mot « engendrer » pour dire qu'il avait été créé. Que quand l'Écriture nous dit qu'il a engendré son Fils, c'est qu'il a causé son existence. Il fut un temps où le Fils n'existait pas, de dire Arius, et Dieu l'a engendré, il a créé un Fils à son image. Et la réponse des chrétiens, la réponse orthodoxe qu'on retrouve dans le Concile de Nicée de 325, on va célébrer le 1700e anniversaire là, dans un an et demi de ce Concile, affirme que engendrer ne veut pas dire créer, engendrer non créer. Que ça nous parle d'une relation qui est entre les deux, mais c'est une relation d'éternité. C'est pas l'idée qu'il y a un acte de création, mais qu'il y a une relation qui est établie entre deux personnes. Le Père et le Fils, et le Père est éternellement Père, et le Fils est éternellement Fils, et donc l'engendrement est un engendrement éternel. Donc il n'est pas passé du non-être à l'être. Mais il y a une relation entre le Père et le Fils qui est similaire à celui de l'engendrement. C'est un langage analogique pour nous aider à comprendre de façon humaine quel genre de relation il existe entre la première et la deuxième personne divine. Ben le Fils vient du Père, procède du Père, est engendré par le Père, mais il n'a pas été créé. Il est éternellement son Fils. Augustin se sert de ce psaume pour expliquer ces choses. Il écrit « Dans l'éternité, il n'y a rien qui soit passé, qui aurait cessé d'être, ni futur, qui n'existe pas encore. Il n'y a que du présent, parce que ce qui est éternel est toujours. Par cette phrase, « Je t'ai engendré aujourd'hui », la foi la plus vraie et la plus catholique proclame l'engendrement éternel et la puissance de la sagesse de Dieu qui est le Fils unique. Donc le « aujourd'hui », c'est un « aujourd'hui » pour Dieu. Et Dieu n'a pas d'hier, et il n'a pas de demain. Dieu est, il est l'éternel. Donc c'est un engendrement de même nature. L'engendrement éternel du Fils de Dieu. Ailleurs, Augustin, en commentant sur 1 Jean 2, 5 à 21, il écrit « Engendré du Père, engendré de l'éternité et dans l'éternité, sans commencement, sans fin et sans succession de moments, parce qu'il est ce qui est, parce qu'il est lui-même celui qui est, celui qui fait un avec le Père, celui qui est dans le sein du Père et qui est venu du Père pour nous révéler Dieu, celui qui est la parole de Dieu, parole créatrice, parole éternelle, faite chair. » Origène, avant Augustin, ses dates sont 185 et 253, écrit « Il n'y a pas de soir possible pour Dieu, ni de matin, mais ce temps, si je puis m'exprimer ainsi, coextensif à sa vie sans origine et éternelle, est pour lui un aujourd'hui, jour où le Fils a été engendré. Par conséquent, on ne peut trouver ni le commencement, ni le jour de sa génération. » C'est une génération éternelle. Cependant, vous noterez que dans le Nouveau Testament, souvent le psaume 2 est cité et appliqué dans le contexte de l'incarnation. Et pas simplement pour nous parler de l'engendrement éternel du Fils, mais l'appliquer dans un sens plus humain lié à sa mission comme rédempteur. Et ce passage est cité lors du baptême de Jésus, « Tu es mon Fils ». Il est déclaré publiquement « Fils de Dieu ». La voix de Dieu se fait entendre et le baptême, c'est le rite d'ordination par lequel il entre publiquement dans son office de rédempteur. oint par ou ordonné, baptisé par Jean-Baptiste. Pas un baptême de repentance pour lui, mais comme une ordination publique. Jean-Baptiste qui est lui-même fils de Zacharie, sacrificateur, donc il procède selon les rites de la loi pour consacrer Jésus dans son ministère sacerdotal. Et à ce moment-là, Dieu le déclare fils. Et ce même passage, donc non seulement il est déclaré à l'inauguration du ministère de Jésus, mais lorsqu'il l'accomplit lors de sa résurrection, puisqu'il est cité dans le livre des Actes, au chapitre 13, versets 32 et 33. « Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alors, si vous regardez comment l'Écriture prend ce psaume 2, nous voyons l'engendrement éternel dans ce qu'on appelle l'éternité passée, non pas qu'un passé pour Dieu, mais pour nous, c'est avant que le monde existe. Il existe, et de toute éternité, il est le Fils de Dieu, qui doit tout recevoir comme héritage avant la fondation du monde. Mais lors de son incarnation, et lors de sa présentation à Israël, déclaré fils de Dieu, encore le psaume 2, et lors de sa résurrection, qui est en quelque sorte un nouvel engendrement de sa nature humaine qui était morte, mais qui est ramenée à la vie, sans père, sans mère. Donc celui qui est sans commencement de vie et qui a été préfiguré par un grand prêtre roi, qui était la figure du grand prêtre roi éternel, Melchisédek. Hébreux 5, 5 et 6. « Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Donc ce psaume 2 connecté avec le psaume 110, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre, non pas d'Aaron. » Une prêtrise ou un sacerdoce transitoire, déficient, mais Melchisédek, qui est la figure de celui qui doit venir, parce que la façon que l'Écriture le présente comme souverain sacrificateur du Dieu très haut, qui est son père? Qui est sa mère? Quand est-ce qu'il a commencé à vivre? Quelles sont les années de sa vie? Quand est-ce qu'il est mort? Tous ces éléments ne sont pas mentionnés pour Melchisédek, parce qu'il est utilisé par l'Esprit de Dieu comme figure de Jésus-Christ, le grand prêtre éternel, fils de Dieu, qui, par sa résurrection d'entre les morts, sa nature humaine n'est pas générée par un père et par une mère, et celui qui est un prêtre éternel, parce qu'il n'y a pas de commencement de vie dans l'éternité, mais qui va régner pour toujours, et qui occupe deux offices qui étaient interdits d'être occupés par la même personne. Saül a été condamné par Dieu, et la royauté lui a été enlevée par sa première faute, parce qu'il a offert le sacrifice, et ça ne lui était pas permis. Et ça a été le commencement de la fin pour lui. Et David n'a jamais fait cela, mais Dieu annonce que son fils royal va être aussi un prêtre. Et c'est dans ce verset que l'Éternel a dit à mon Seigneur, « Tu es sacrificateur pour toujours. » Donc, celui que Dieu appelle son fils. Voyez toutes ces proclamations. Et ici, donc, le Messie révèle son identité. Il proclame ses titres, mais il proclame aussi son autorité royale. Versets 8 et 9. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme un vase, comme le vase d'un potier. » Voilà la proclamation, le décret que le Fils fait, que le Père lui a donné de faire comme Messie incarné. Le trône de David ne devait pas à être établi uniquement sur Israël, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Non pas par David lui-même, mais par son fils. Vous lirez le psaume 72, qui annonce qu'il va régner d'un océan à l'autre. Mais maintenant, pourquoi le Fils de Dieu doit demander son héritage? Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Selon la nature divine, il ne reçoit pas le règne. Il règne éternellement. Dieu ne peut pas recevoir son règne de qui que ce soit. Il n'y a personne qui peut donner à Dieu son règne. Mais selon la nature humaine, comme fils de Dieu incarné, comme roi messianique, il n'a pas commencé comme roi. La Bible ne nous dit pas qu'il s'est incarné en roi, il s'est incarné en serviteur. Il est venu comme un homme, comme un simple homme, comme un serviteur, qui s'est abaissé jusqu'à la mort. Et par la suite, il est devenu roi des rois, seigneur des seigneurs. Après cet abaissement, il a reçu le règne. Donc, d'une certaine façon, dès son incarnation, il est roi éternel parce qu'il est fils de Dieu. Il porte déjà les titres messianiques comme fils de David. Mais il n'a pas encore reçu le règne avant sa résurrection et son ascension. La mission n'était pas accomplie. Et c'est seulement au terme de cette mission, les hommes ont voulu le couronner. Jésus a dit non, Jésus ne voulait pas de ce couronnement humain. Il attendait la couronne par son Père. Et avant son ascension, Jésus déclare, dans Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Maintenant, pourquoi est-il dit qu'il va briser avec une verge de fer les nations? Le même mot, la verge, le shebet, est à la fois la houlette du bon berger, dans le psaume 23, et le sceptre royal de la justice, dans le psaume 45. Et ces deux éléments correspondent au règne du Messie. Il est le bon berger, sauveur, et le roi juge. Il est celui qui vient subir le jugement et qui va exécuter le jugement. Et ces deux éléments correspondent aux deux venues du Messie. Il n'est pas venu d'abord pour juger. Il est venu pour sauver. Et pour sauver, il a dû subir le jugement. Mais il va revenir pour juger et pour punir. Et tout ce que le psaume 2 enseigne trouve un écho dans la prédication de l'apôtre Paul aux Athéniens, qu'on retrouve dans Actes 17, versets 30 et 31. Il déclare Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu se rit de la rébellion. Dieu se rit de votre ignorance. Comme il se rit de ces bruits qui courent parmi les hommes, qui se rebellent, qui ne veulent pas de l'Éternel et de son règne. Libérons-nous de cette chaîne. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et leur réponse, c'est quoi? Ils continuent à se moquer. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Voyons. La résurrection d'entre les morts. Ils se moquent. Mais certains répondent. Et la même invitation est faite à tous les humains. Le message dont les apôtres ont été faits ambassadeurs pour amener toutes les nations à l'obéissance de la foi et à la soumission au Christ est aussi proclamé à la fin de ce psaume, versets 10 à 12. Et c'est le mot final où on a l'invitation du psalmiste aux humains. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous notez qu'il s'adresse au roi et au juge, non pas parce que cette invitation les concerne exclusivement, mais parce que par eux, tous les hommes sont impactés en vue du salut. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 7, nous dit que, parce que Dieu veut sauver tous les hommes, nous invite à prier pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, qu'il y a une corrélation entre le règne des hommes et le règne du Christ, en vue du salut pour des temps de paix qui vont favoriser la prospérité de l'Église et permettre la progression de l'Évangile et du règne de Christ sur les hommes. Et nous sommes appelés continuellement comme chrétiens à prier pour les autorités, pas de n'importe quelle façon, pour qu'ils règnent et dirigent de façon juste, intègre, mais aussi pour le salut de ceux qui sont élevés en dignité, pour leur conversion et leur soumission au Fils de Dieu. Parce qu'ils sont appelés à servir Dieu et à embrasser le Fils en tant qu'autorité. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai aimé Augustin. Pensons à Augustin qui vit dans un contexte où l'Empire romain a longtemps été dirigé par des empereurs païens qui servaient des faux dieux. Et depuis le début du 4e siècle, l'empereur Constantin s'est converti, puis là, il y a un changement, et là, on a une cohabitation entre un empire qui est encore paganisé à bien des égards, mais où l'empereur a embrassé Christ. Et certains considèrent que ça a été le coup fatal au christianisme qui va faire éventuellement le césaropapisme, puis on peut effectivement voir certaines connexions du mélange du pouvoir de l'Église qui perd un petit peu sa nature spirituelle pour devenir de plus en plus une force politique et va être corrompu à un bon moment donné par ce pouvoir-là. Mais Augustin donc vit un peu plus d'un siècle après la conversion de Constantin et dans un contexte d'un empire avec beaucoup de chrétiens et beaucoup de païens. Puis il va écrire aussi un livre de théologie qui va vraiment marquer la pensée chrétienne. La cité de Dieu, où il nous parle finalement de cette cité des hommes, mais de la cité de Dieu, le royaume de Dieu parmi les hommes et de la relation entre les deux. Et en commentant le psaume 2, il dit quelque chose d'intéressant. Le souverain, donc le roi, l'empereur, le prince, sert Dieu en tant qu'homme et en tant que roi. Il le sert en tant qu'homme en vivant selon la foi. Donc, individuellement, comme homme, comme personne, il est appelé, comme tous les hommes, à se convertir à Christ. Ce n'est pas parce qu'il est roi qu'il n'est pas concerné par cet appel à la repentance. Et il sert en tant que roi en exerçant la force nécessaire pour sanctionner les lois qui commandent le bien et interdisent son contraire. Il n'en dit pas tellement plus, mais ma compréhension est la suivante. Les autorités civiles ne sont pas appelées à établir un gouvernement proprement chrétien, mais à établir un gouvernement commun dans lequel des chrétiens et des non-chrétiens cohabitent. Parce que la postérité du serpent et la postérité de la femme vont cohabiter jusqu'à la fin. Mais établir ce gouvernement commun qui ne sera pas en rébellion ouverte envers le règne du Christ. En favorisant le bien et la liberté de l'Église. En faisant des lois qui ne sont pas contraires à la loi de Dieu et qui ont un caractère universel. Je ne pense pas qu'il leur ait donné d'établir exactement la première table de la loi, c'est-à-dire de déterminer le culte, qui on doit adorer et comment on doit l'adorer, parce que ça, c'est la juridiction de l'Église. Mais ils doivent établir un règne qui n'est pas en rébellion vis-à-vis du règne de Christ. Un royaume où cohabitent la réjouissance et la crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Où il y a une saine réjouissance qui n'est pas faite de l'anarchie, de la licence et de la promotion du mal et du péché et de la mauvaise conduite. Et donc, il y a une sorte de tremblement parce qu'il y a une justice. Il y a un jugement qui s'établit. Il y a une punition pour le mal. Et c'est leur rôle en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de la justice, de punir le mal et d'approuver le bien. L'invitation ultime, cependant, qui leur est faite, c'est de l'embrasser lui personnellement. C'est de devenir des chrétiens, de régner comme des chrétiens. Le reconnaître comme leur Seigneur. Parce que ceux qui refusent, à commencer par les rois, et tous ceux qui sont sous leur règne, périront dans leur voie. Le psaume 1, verset 6, termine en disant que la voie des pécheurs mène à la ruine. Et cette même ruine, donc, qui est certaine pour ceux qui refusent loin de l'Éternel. Mais heureux ceux qui se réfugient en lui. Voilà la béatitude ultime. Heureux ceux qui ont foi dans le Fils. Et donc, il y a un sens où les rebelles, plutôt que de prendre la part d'Absalom, devaient prendre David. Et même si ça paraissait le mauvais choix à vue humaine à court terme de dire « Je ne vais pas prendre la part de celui qui fuit, de celui qui est en train de perdre la bataille. Heureux celui qui vient trouver refuge auprès de David parce que c'est celui que Dieu choisit, c'est celui que Dieu a oint. » Mais nous avons ici une sorte de parabole. Christ qui est crucifié et son peuple qui est en exil, son peuple qui est mis au banc de l'Empire, qui est rejeté, qui est banni de ce monde, ben c'est lui que Dieu a choisi pour régner. Heureux ceux qui se confient dans un sens beaucoup plus grand dans ce fils de David qu'il ne devait se confier en David. David n'est pas le sauveur ultime, c'est un pécheur. Mais il est la figure de celui en qui nous devons croire, en qui nous devons espérer, celui que nous devons invoquer pour notre salut. Et c'est intéressant que ce don dont il faut se réfugier en lui, c'est quelque chose qui vient de lui, sa colère, qui est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui, parce que sa colère est prompte à s'enflammer contre ceux qui ne le font point. Et la façon de se réfugier de sa colère, c'est pas de se sauver de lui. Comme l'écrit Derek Kinner, il n'y a aucun refuge loin de lui, seulement en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.